Chapitre 7 La confiture de sorcière. Tu vas m'accompagner, a décidé Amandine lorsque nous avons regagné ses appartements. Je n'ai confiance en personne, à part toi. C'est un piège, ai-je déclaré. Vous l'avez compris, j'espère. Zafar pense que vous ne reviendrez pas vivante de cette contrée maudite. Au besoin, il chargera un démon quelconque de vous liquider en cours de route. « Je sais, » a soupiré la princesse, « mais je ne peux pas abandonner mon père au fond de l'étang. Je dois le sortir de là. Nous partirons demain, dès que Bézélius m'aura fourni les renseignements nécessaires. » Je me suis isolée dans le cabinet de velours rouge pour interroger la valise. Je lui ai demandé ce qu'elle savait à propos des sirènes. « Ce sont des filles assez peu recommandables, » a-t-elle répondu. « Leur chant possède un pouvoir hypnotique auquel il est difficile de résister. Elles s'en servent pour pousser les gens à se jeter à l'eau. Mais pourquoi ? Pour les dévorer, tiens. Elles sont aussi carnivores que les requins. Il ne faut pas se fier à leur jolie figure. » Ce sont de redoutables prédatrices. Des tueuses, quoi. Comment faire pour les approcher, alors? Les perles de lune. Elles sont friandes de perles de lune. Tu devras leur en offrir. Ce n'est qu'à cette condition qu'elles accepteront de te parler. J'ai voulu obtenir d'autres renseignements, mais la valise a refusé de me répondre. Je n'en suis pas étonnée. Elle a mauvais caractère et déteste être sollicitée. Pendant ce temps, Amandine faisait préparer nos chevaux et nos tenues de voyage. J'ai été soulagée de voir qu'elle ne comptait pas se mettre en route vêtue d'une robe longue et d'une ombrelle. En fait, elle avait décidé, pour une fois, de s'habiller en garçon, en jeune mousquetaire pour être exact. Son déguisement comportait des bottes de cuir, un juste corps de buffleterie et même une épée, dont au demeurant, elle ne savait pas se servir. Bézélius m'a remis les cartes et toutes les informations nécessaires, a-t-elle annoncé triomphante. Nous pouvons partir. L'excitation lui mettait le rose aux joues. C'était la première fois qu'elle quittait le palais sans être accompagnée par une ribambelle de serviteurs et de dames d'honneur chargées, en réalité, de la surveiller. « Il ne s'agit pas d'un pique-nique, ai-je grommelé. Et sachez qu'une fois sortie du palais, je n'ai pas l'intention de continuer à vous donner du vous. Ça me gave. On se dira-tu, un point c'est tout. » « Ça me va, » a lâché Amandine en souriant. « J'aimerais aussi que tu m'apprennes des mots grossiers, des jurons. » Je n'en connais aucun à part zut et crotte du bic. Je crois qu'on fait mieux dans le genre. Nous avons quitté le palais sans attendre. En plus de nos montures, nous emportions un cheval de bât pour les provisions, les couvertures et les armes. Alors que nous franchissions les grilles, j'ai senti un regard posé sur moi et je me suis retournée. C'était Zafar. Accoudé au grand balcon d'honneur, il nous observait. Le soleil faisait scintiller son masque de porcelaine. De sa main gantée de cuir noir, il m'a adressé un petit signe ironique. Il espérait bien ne jamais nous revoir. J'ai pensé qu'il avait déjà donné ses ordres à ses amis loups-garous et vampires afin qu'ils nous tendent des pièges au hasard du chemin. Je me suis promis d'ouvrir l'œil. J'ai voulu en parler à Amandine, mais elle m'a coupé la parole pour me demander « Mon chapeau est-il bien mis ? Je suis inquiète au sujet de la couleur de la plume. S'accorde-t-elle vraiment avec celle de ma cape ?» Je croyais qu'il nous faudrait chevaucher des jours et des jours pour atteindre la contrée des sortilèges. Mais je me trompais. En réalité, au bout de quelques heures, les panneaux d'avertissement se sont multipliés. Ils se représentaient sous la forme de morceaux de bois cloués sur le tronc des arbres. On y avait peint une tête de mort grimaçante, ainsi que la mention « Danger, territoire empoisonné. J'ai dit, j'aimerais bien savoir à quoi je dois me préparer. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce coin? Ça me semble plutôt éloigné de la mer et des fameuses sirènes. Pour établir le dialogue avec les sirènes, il faut être en mesure de leur offrir des perles de lune, a expliqué Amandine. Ces perles, nous devrons les ramasser ici, ou plus exactement, les voler. Ce sera assez dangereux. Nous avons dû mettre pied à terre car les chevaux refusaient d'aller plus loin. Ils hennissaient en secouant la crinière comme s'ils avaient soudain flairé l'odeur d'un prédateur. Amandine les a emmenés sous les arbres. « Laissons-les ici, » a-t-elle murmuré. « De toute manière, mieux vaut se déplacer à pied. Ce sera plus pratique pour se cacher. » J'ai pris mon sac à dos qui contenait des provisions, une gourde et un couteau. La princesse m'a imité. Nous nous trouvions à présent au seuil d'une lande parsemée d'arbres, aux branches chargées de fruits très rouges, si brillants qu'on aurait dit des petites ampoules allumées sur un sapin de Noël. Des cerisiers ensorcelés, a soufflé Amandine. Ils donnent des fruits empoisonnés, si dangereux qu'il suffit de les effleurer du bout des doigts pour tomber raide mort. Ils poussent la nuit à la lueur de la lune. En guise de noyau, les cerises cachent une perle. Ce sont ces perles que nous devons récupérer.
Si on ne peut pas toucher aux cerises, ça va pas être commode, ai-je grogné.
Bézélius, le sage du palais, m'a dit qu'il existait tout de même un moyen, a continué la princesse. La lande est habitée par un ogre, Obadar le mauvais. Ce monstre est immunisé contre le poison. Il y est insensible. Il n'y a que lui qui puisse manipuler les cerises en toute sécurité. Il a l'habitude de les cueillir pour en faire une confiture dont raffolent les sorcières. Elles viennent des quatre coins du pays pour lui en acheter des dizaines de pots. De la confiture de cerises empoisonnées? Oui, elles en sont extrêmement gourmandes et le poison, au lieu de les tuer, ne fait que leur ouvrir l'appétit. Avant de faire cuire cette confiture, Odabar incise les cerises et jette les noyaux, si bien qu'il y en a une montagne devant sa caverne. Une montagne de perles lavées par les pluies et débarrassées de leur poison. C'est dans ce tas que nous devrons puiser. Sans nous faire voir, évidemment, sinon l'ogre nous arracherait la tête, les bras et les jambes, comme on effeuille une marguerite. Je commençais à comprendre pourquoi Zafar ne s'était pas donné beaucoup de mal pour nous dissuader d'entreprendre ce voyage. Il y avait évidemment peu de chances pour que nous en revenions vivantes. Amandine a tiré de son sac des vêtements bizarres qu'elle m'a tendus. « Tiens, » a-t-elle déclaré, « enfile ça. Nous allons nous déguiser en sorcières. De cette manière, si l'ogre nous aperçoit, il ne s'étonnera pas de notre présence sur ces terres. » Contrairement à ce qu'on raconte, les sorcières ne sont pas habillées en noir et ne portent pas de chapeau pointu. Elles ne se promènent pas davantage un balai à la main. Elles auraient l'air vraiment stupides ainsi accoutrées. En réalité, elles sont vêtues de longues robes rouges. Pourquoi rouges, me direz-vous? Parce qu'ainsi, les taches de sang des sacrifices humains sont moins visibles sur le tissu et que ça les dispense de trop souvent faire la lessive. Sur la tête, elles enfilent une cagoule percée de trous pour les yeux, afin qu'on ne puisse pas les reconnaître et les dénoncer aux autorités. C'est là leur véritable uniforme. Tout le reste relève de la légende. Un bon conseil. Si vous croisez un jour une femme en rouge portant cagoule, filez ventre à terre. Je n'étais pas très fière d'enfiler ce déguisement, car je n'ai jamais aimé les sorcières. Elles sont toutes mauvaises, sans exception, et l'idée de me faire passer pour l'une d'entre elles me déplaisait. Affublés de nos robes rouges, nous sommes entrés dans la lande.
J'ai vu que des douzaines d'oiseaux morts s'entassaient au pied des arbres fruitiers. Ils avaient tous commis l'erreur de vouloir becqueter les cerises. Le poison les avait foudroyés. « Ne touche à rien !» a soufflé Amandine. « On ne peut pas mettre de gants, car les sorcières n'en portent jamais, et cela nous trahirait. Espérons que nous ne tomberons pas nez à nez avec l'ogre. Nous serions bien embêtés s'il nous offrait des cerises. » La lande s'est révélée un lieu désolé. Un village en ruine achevait de s'y disloquer.
Quand les cerisiers maudits ont commencé à pousser, tout le monde s'est enfui, a dit Amandine. Depuis, personne ne vit ici, à part l'ogre et les sorcières gourmandes.
Le sol était jonché de squelettes d'animaux, des renards principalement,
qui avaient cru malin de dévorer les oiseaux empoisonnés par les cerises, et qui s'étaient empoisonnés à leur tour. Bref, le paysage n'avait rien de follement gai. Je ne m'y serais pas installée pour pique-niquer, si vous voulez tout savoir.
La caverne d'Audabar se trouve au sommet de cette colline, a précisé Amandine. Nous ramperons à travers les taillis pour nous en approcher. Ensuite, il suffira d'attendre qu'ils s'endorment pour voler les perles. Il faudra bien faire attention à ne prendre que celles nettoyées par les averses. Évite de toucher à celles auxquelles adhèrent encore des lambeaux de fruits. Je devenais nerveuse. Au fur et à mesure que nous nous rapprochions de la colline, une odeur nous submergeait, celle de la confiture en train de cuire. Ce parfum était délicieux. On avait le plus grand mal à s'imaginer qu'il provenait de cerises empoisonnées. Tout d'un coup, un pas lourd a ébranlé le sol. Amandine s'est figée. « L'ogre » a-t-elle balbutié. « Il vient vers nous. Vite, cachons-nous dans ces buissons. » Nous avons bondi dans les taillis 30 secondes avant qu'Audabar ne surgisse au détour du sentier. Il mesurait environ 3 mètres et était bâti en Hercule. Contrairement à ce que les auteurs s'obstinent à raconter dans les contes de fées, il n'était pas du tout laid. On aurait même pu dire qu'il était beau garçon. Le seul problème, c'était ses dents. Quand il ouvrait la bouche, on voyait bien qu'elles étaient aussi pointues que celles d'un lion. Ça nuisait à son charme. Il avait les mains rouges vives, mais ce n'était pas du sang. Au contact de la confiture, sa peau avait fini par prendre cette teinte, voilà tout. Il portait 2 larges paniers d'osier. J'ai compris qu'il venait renouveler sa réserve de fruits. Comme il était très grand, il n'avait pas besoin d'échelle pour cueillir les cerises. Nous nous sommes faites toutes petites, Amandine et moi. L'ogre s'est lancé dans sa cueillette en sifflotant. De temps à autre, un oiseau empoisonné tombait des branches. Il s'empressait alors de le ramasser et de le manger, comme s'il s'agissait d'un sandwich. J'entendais les petits os craquer entre ses mâchoires. Le temps m'a paru long. La sueur me coulait dans les yeux et la peur me donnait envie de faire pipi. Enfin, les paniers remplis, Audabar s'en est retourné au sommet de la colline pour cuisiner ses horribles confitures. C'était moins une, ai-je haleté en sortant des buissons. À un moment, il a failli marcher sur ma main, a murmuré Amandine toute blême. « Ce ne sera pas facile, » ai-je soufflé. « S'il nous poursuit, nous n'aurons aucune chance de lui échapper. Il nous rattrapera en 3 enjambées. » Il fallait pourtant se décider à aller de l'avant. Nous avons donc entrepris d'escalader la colline en nous déplaçant à l'abri des buissons. Il nous a fallu pas mal de temps pour atteindre le sommet. Là s'ouvrait une caverne d'où s'échappait un parfum de cerise cuite si puissant qu'il vous tournait la tête. L'ogre travaillait, penché sur ses chaudrons, malaxant une pâte rouge avec une grande cuillère de bois. « Là !» a soufflé Amandine. « Les noyaux !» En fait de noyaux, un immense tas de perles brillantes s'était amassé devant la caverne.
Elles irradiaient une lumière étrange
comme si elles étaient éclairées de l'intérieur. Jamais je n'avais contemplé de perles aussi lisses, aussi grosses. Les plus anciennes avaient été lavées par les pluies, on pouvait donc les toucher sans risque. Les plus récentes étaient encore enduites de jus de cerise, et des fragments de pulpe empoisonnée s'y attachaient. Si je commettais l'erreur de poser le doigt dessus, je tomberais reine morte. L'ogre avait planté une pancarte à l'entrée de la grotte. On pouvait lire, tracé d'une écriture enfantine, les mots « Véritable confiture de sorcière garantie sans noyau. Fabrication artisanale, sans additifs ni conservateurs. » « Attendons qu'il s'endorme, » a chuchoté Amandine. « Contrairement à ce qu'on raconte, les ogres sont très forts, mais se fatiguent vite. Il leur faut beaucoup dormir. » Il a fallu se résoudre à prendre notre mal en patience. Le parfum de confiture me donnait mal au cœur. À un moment, j'ai eu très peur, car l'ogre s'est installé au seuil de la grotte pour inciser les cerises ramassées tout à l'heure. D'une pichenette, il expédiait les noyaux sur le tas. Comme il visait mal, plusieurs d'entre eux sont passés à quelques centimètres de mon visage. S'il m'avait touché, j'aurais été foudroyée. Ces fichues perles étaient aussi dangereuses que des flèches empoisonnées. J'aurais bien voulu me reculer, mais je craignais de me faire repérer. Aussi ai-je dû demeurer là, aplati dans mon buisson, affrissonné de terreur chaque fois que l'ogre expédiait un nouveau noyau dans la nature. Inutile de vous dire que lorsqu'il a eu enfin terminé d'inciser toutes les cerises, j'ai poussé un soupir de soulagement. J'étais en sueur et je redoutais par-dessus tout qu'il ne repère mon odeur. Heureusement, le parfum de la confiture était trop puissant. La marmelade une fois cuite, Audabar l'a mise en pot. Puis il s'est allongé sous un arbre, les mains croisées sous la nuque pour faire la sieste. « C'est à nous d'entrer en scène, » a murmuré Amandine. Comme je ne la sentais pas trop taillée pour ce genre d'aventure, j'ai répondu « Reste là, je m'en charge. » Et, avant qu'elle ait eu le temps de protester, j'ai rampé hors de ma cachette. Je savais que je prenais un gros risque. Si l'ogre s'éveillait, jamais je ne parviendrais à lui faire gober que j'étais une sorcière. Je ne connaissais rien à leurs signes de reconnaissance, à leur manière de parler. Et puis, en me voyant puiser dans les noyaux, ils comprendraient tout de suite qui j'étais. Malgré tout, je me suis faufilée jusqu'au tas de perles. Je faisais très attention à ne pas toucher de débris de cerises empoisonnées, ce qui compliquait ma tâche, car je devais faire des détours. Enfin, j'ai pu puiser dans les perles anciennes, celles lavées par les averses. J'en ai glissé une poignée dans ma poche. Manque de chance, en frottant les unes sur les autres, elles produisaient un crissement strident auquel je n'avais pas pensé. J'ai cru que l'ogre allait se réveiller. J'ai rejoint Amandine, les mains tremblantes. « Filons, » a-t-elle chuchoté. « Nous avons déjà eu beaucoup de chance. » Nous avons dévalé la colline aussi vite que possible. Il nous tardait de sortir du territoire ensorcelé. Je n'en revenais pas d'être encore en vie. Hélas, la chance nous a abandonnés à mi-chemin de la sortie. Tout à coup, en travers de la route, nous avons vu trois sorcières vêtues de rouge qui dressaient un feu de camp pour se restaurer. Nous apercevant, elles ont aussitôt adressé des signes de bienvenue. « On s'enfuit ?» a suggéré Amandine. « Non, » ai-je haleté. « Ça leur mettrait la puce à l'oreille, et elles nous jetteraient un sort paralysant. Nous n'aurons qu'à prétendre que nous sommes pressés. Soyons aimables, mais ne nous attardons pas. Tu crois que ça marchera ?»« Je n'en sais rien. De toute façon, c'est trop tard. Elles viennent à notre rencontre. Si elles nous démasquent, elles nous livreront à l'ogre. Chut. Les trois sorcières ont ôté leur cagoule pour nous saluer. Elles étaient vieilles. Leur sourire ne faisait pas oublier la méchanceté de leur regard. Alors, les filles, cette impatientée la plus moche, on ignore la politesse ? J'ai réalisé que nous avions oublié de relever nos cagoules. J'ai aussitôt réparé cette erreur. Eh, vous êtes diablement jeune, s'est étonnée l'horrible bonne femme. Nous sommes des apprentis, ai-je improvisé. Nous venons acheter de la confiture pour nos maîtresses. Mais l'ogre est de mauvaise humeur. Il nous a chassés car il n'a pas fini de remplir les pots. Il nous a fait peur.
Je comprends ça, a grommelé la vieille. Mieux vaut attendre en effet qu'il soit revenu à de meilleurs sentiments. Un ogre coléreux peut faire des dégâts. Dans ce cas, attendons ensemble. Nous allons goûter, ça nous passera le temps.
Il me reste justement un demi-pot de confiture. Le dernier. Nous le partagerons, ça ne se refuse pas. Je suppose que vous aimez ça, hein, petite gourmande.
Oui, oui, ai-je bredouillé. C'est un vrai régal.
Je ne pouvais pas prétendre le contraire. Amandine était au bord de l'évanouissement. Elle savait ce qui se passerait si une seule cuillerée de confiture touchait nos lèvres. Nous tomberions foudroyés, le visage noirci par le poison. Il a bien fallu s'asseoir autour du feu de camp. Les trois harpies se sont présentées. Elles se nommaient respectivement Andana, Jacoma et Eléa. Elles avaient l'air d'avoir 100 ans chacune et bien des morts sur la conscience. Jacoma a extirpé le fameux pot de confiture de son sac, ainsi qu'une miche de pain crassouille. On appelle ainsi un pain cuit avec une pâte à laquelle on a mêlé des araignées. Pour les sorcières, c'est l'équivalent des raisins dans la brioche. Question de goût.
C'est mon dernier pot, a radoté Jacoma. Je ne peux pas me passer de cette friandise. C'est parce que j'en mange 3 cuillerées chaque jour que j'ai pu parvenir à un âge aussi avancé sans souffrir d'aucune maladie. Écoutez les conseils d'une sorcière blanchie sous le harnais, vous, les apprentis. Sans confiture de cerise, vous perdrez vos pouvoirs.
Elle a coupé une tranche, puis 2, puis 3. On voyait bien les araignées cuites prises dans la mie. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire lorsqu'elle me tendrait une tartine empoisonnée. M'enfuir ? Je n'irais pas loin. D'un mot magique, elle me paralyserait, puis me donnerait en offrande à l'ogre qui s'empresserait de me dévorer. Le moment tant redouté est arrivé. Jacoma a ouvert le pot et étalé la confiture sur les tranches de pain.
Vous m'en direz des nouvelles, a-t-elle lancé en se léchant les babines.
C'est de la bonne.
Elle m'a tendu la tartine en me fixant droit dans les yeux. Je n'ai pas bougé, j'étais pétrifiée.
Alors, s'est-elle impatientée, qu'attends-tu pour la prendre?
C'est qu'il n'y en a plus tellement, ai-je bredouillé. Je ne voudrais pas vous en priver.
Ça n'a pas d'importance. Dans une heure, l'ogre m'en cédera 30 pots. Ne faites pas ta mijaurée. Mange donc. Elle s'énervait. Peut-être même commençait-elle à soupçonner quelque chose d'anormal. De vrais apprentis sorcières n'auraient pas fait tant d'embarras, bien au contraire. Nous étions fichus. Perdant la tête, j'ai tendu la main. À côté de moi, Amandine a gémi de terreur. Si mes doigts effleuraient la confiture, je tomberais morte à ses pieds. Tout à coup, une voix épouvantable a résonné, faisant sursauter les sorcières. « Amandine, Nouchka !» hurlait-elle. « Où vous cachez-vous, sacrée paresseuse? Revenez immédiatement ici, ou je vous transforme en grenouille. Je ne le répéterai pas 2 fois. Il y a 1 heure que je vous attends. » La voix était si désagréable, si chargée de méchanceté, que Jacoma elle-même a laissé échapper une grimace. Une seconde désorientée, j'ai fini par comprendre que c'était la valise qui venait à notre secours. Je l'avais laissée dans les fontes de ma selle afin d'avoir les mains libres pour voler les noyaux.
Heureusement, son instinct lui avait soufflé que nous courions un grave danger. J'ai saisi la perche au vol et je me suis relevé d'un bond. « C'est notre maîtresse, » ai-je balbutié. « Nous sommes restés absentes trop longtemps et elle est de mauvaise humeur. « Excusez-nous, mais nous devons y aller, sinon elle nous punira cruellement. »
« Va, va ma petite, » a soupiré Jacoma. « Ta patronne n'a pas l'air commode. « Je sais ce que c'est d'être apprentie sorcière. « Je l'ai été quand j'avais ton âge. « Ne te mets pas dans les ennuis, file. » « Je ne me le suis pas fait dire deux fois. » J'ai saisi Amandine par la main et nous avons couru vers les arbres, là où nous avions attaché les chevaux. La valise continue à vomir, menace et injure en imitant la voix d'une vieille femme acariâtre. On avait réellement l'impression qu'une harpie se tenait cachée dans les fourrés. « Ça va, » lui ai-je soufflé en mettant le pied à l'étrier. « N'en fais pas trop. » « Merci quand même, tu nous as sortis d'un drôle de pétrin. » Nous avons éperonné nos montures sans demander notre reste. Je n'avais qu'une crainte, que les sorcières aient soudain la mauvaise idée de vouloir faire connaissance avec notre patronne. Heureusement, cela ne s'est pas produit, car elles étaient trop occupées à dévorer leurs tartines.
Une lumière étrange, étrange. Ils irradiaient une lumière étrange. Elles irradiaient une lumière étrange, comme si elles étaient éclairées de l'intérieur. Le sol était jonché de squelettes d'animaux. Le sol était jonché de squelettes d'animaux. Des renards principalement.